Donc la gourmandise, c'est intéressant parce que c'est déjà, de prime abord, on pourrait dire que c'est pas forcément ou un péché qui trouve une certaine bienveillance de la part des uns et des autres. Autant l'orgueil, voilà, on voit toutes les conséquences et ou en tout cas on aperçoit les difficultés que ça peut poser dans le couple, la famille, la société. Et les sociétés, l'équilibre mondial, autant la gourmandise, eh bien, somme toute, c'est un péché mignon, du même nom que le filet. Du même nom que le filet mignon. Et donc, la gourmandise, en même temps, le père Pascaline, quand il parle de la gourmandise, avec beaucoup d'humour, comme il le fait d'habitude, il cite. Au fond, Genèse 3:6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Quand on regarde le péché originel, eh bien, c'est intéressant de voir que c'est lié à la nourriture. Il vous est possible de manger de tous les fruits de l'arbre qui est à votre disposition, sauf du fruit de l'arbre du bien et du mal. Aucun arbre ne s'appelle comme ça, évidemment. Le récit biblique n'est pas un récit journalistique ou scientifique. Aucun arbre s'appelle l'arbre du bien et du mal. C'est-à-dire, le fait de manger, c'est quoi? Le fait de manger, c'est assimiler les aliments, rendre l'autre semblable à soi. Et c'est intéressant de voir que le péché originel est lié à la nourriture. L'homme cède au tentateur et se détourne de son créateur. Il garde en lui l'image divine et cette soif d'infini qui ne peut être comblée que par Dieu. Il va chercher en vain son contentement dans les mets de la terre. Au fond, quelle est la difficulté dans la gourmandise? Dans la gourmandise, il y a un lien avec le plaisir. Le plaisir en tant que tel ne pose pas difficulté. Il y a deux formes de plaisir qui sont très ancrées dans notre humanité, dans notre corps. Le plaisir lié à l'alimentation, qui est au fond lié à la survivance personnelle. Si on cesse de s'alimenter, si on cesse de boire, eh bien, personnellement, on ne peut pas survivre. Et le plaisir lié à la sexualité, qui est lié au développement du genre humain. S'il n'y avait pas de plaisir pour les époux à s'unir, eh bien, il n'y aurait pas non plus d'enfants. Donc, en tant que tel, le plaisir n'est pas une difficulté. Au contraire, Aristote dit que un acte bon qui est fait sans plaisir, c'est-à-dire sans joie, est moins bon qu'un acte qui est fait avec plaisir et avec joie. Prenons un exemple. Vous aidez une vieille dame à traverser les clous en portant ses sacs lourds de ses courses. Si vous le faites uniquement par devoir, sans plaisir, sans joie, eh bien c'est moins bon que si vous le faites avec plaisir et avec joie. Donc la question n'est pas liée au plaisir. La question est un usage immodéré du plaisir, un excès. Et on trouvera ça dans trois des péchés capitaux, la gourmandise, la luxure, l'avarice, l'excès. Déguster un plat qui est bien préparé, qui a demandé beaucoup de travail, etc. Certainement, c'est une bonne chose. Mais de se focaliser, de se penser par rapport à la nourriture ou à la boisson, particulièrement ben, si elle est alcoolisée, eh bien, c'est là la difficulté. Au fond, le péché de gourmandise, c'est de ne pas accueillir une limite. une certaine modération, une certaine tempérance dans la manière d'utiliser ce qui est à notre disposition et qui est source de plaisir, et qui est bon. Mais c'est bon parce que c'est ordonné à la bonté de l'homme, à sa survie personnelle et à la survie du genre humain. Donc c'est intéressant de se dire, de contempler en tout cas, de méditer là-dessus, qu'il peut y avoir une forme de gourmandise qui est un manque de tempérance, un manque de limite, un manque de maîtrise de soi. D'abord, la gourmandise nous rend lourds, au propre comme au figuré. Elle provoque une hébétude de l'intelligence, un affaiblissement de la capacité de saisir les vérités spirituelles. Tenez-vous sur vos gardes, dit Jésus en Luc 21, 34. Tenez-vous sur vos gardes, prévient le Seigneur, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent dans l'ivrognerie. Saint Ambroise compare ceux qui marchent sur leur ventre, c'est-à-dire les serpents, et ceux qui vivent pour le ventre et la gourmandise, qui ont pour Dieu leur ventre. Vous voyez, au fond, dans ce péché de la gourmandise, il y a une forme d'excès et une finalité qui n'est pas à sa place. Certes, on a besoin de la nourriture pour vivre, mais on ne vit pas pour la nourriture ou la boisson. Sachant que un dérèglement au niveau de la nourriture et de la boisson, au fond, est signe d'autres dérèglements, d'autres excès, d'autres manques de tempérance. Tempérance dans la prise de décision, tempérance dans la manière d'envisager personnes et événements, parce que nous sommes une unité, âme et corps. Et donc, c'est intéressant de voir que le péché de gourmandise, c'est un signe qui nous est envoyé de dire « Il y a quelque chose dans ton humanité qui n'est pas en place. Il y a quelque chose qui est dans l'excès. » Non pas que le manger ou le boire soit mauvais, non, il nous est nécessaire. Mais il y a de l'excès. Et plus une personne est intelligente, plus elle a besoin de tempérance, mais plus la tempérance lui est difficile. Parce que précisément l'intelligence entrevoit les choses dans leur finalité, entrevoit tout ce qui peut être possible, mais notre humanité demande l'accueil d'une limite. C'est vrai qu'il y a un lien, et je pense que c'est bien de faire ce lien entre l'âme et le corps, entre la gourmandise et la manière de prendre les décisions, la gourmandise et le rapport à la sexualité, se poser la question où est-ce que j'en suis par rapport à cet accueil de la limite, à cette tempérance, à cette maîtrise de moi. Y a-t-il en moi quelque chose qui ne soit pas à sa place dans le trop ou le pas assez ? On parle de la gourmandise, mais le fait de ne pas assez nourrir son corps, lorsque c'est volontaire, est aussi une faute. On ne parle pas de maladie, d'anorexie, etc., mais où là, il n'y a pas de volontaire. On a parlé le premier jour que tout péché pour être péché doit être volontaire, donc faire appel en nous à un espace de liberté. Mais il peut y avoir aussi une forme de refus du corps, de refus d'accueillir dans notre humanité. Et de ce point de vue-là, il faut aussi se poser la question, est-ce que le plaisir, il faut trouver le juste milieu. Le juste milieu, c'est justement la définition de la vertu. La vertu, c'est le juste milieu. Et le juste milieu, il est en fonction de chacun. On ne peut pas dire que tout le monde doit manger tant de grammes de viande. Non, parce que homme ou femme, parce que enfant ou adulte, eh bien nous avons un juste milieu par rapport à la viande qui est différent. Si vous êtes argentin comme le frère Diego, c'est 500 grammes de viande. Au cas où vous l'invitez chez vous. Prévoyez en conséquence. Parce que, voilà, c'est culturel, c'est affectif. Lorsque j'ai préparé avec Manolo les menus, par exemple, pour notre session, j'ai dit non, une fois la viande par jour. Alors qu'eux-mêmes étaient prêts avec matin et soir, midi et soir. Non, uniquement le midi, là, le soir, autre chose. Vous voyez comme quoi le juste milieu n'est pas si facile à déterminer. Il est en fonction de nous et en même temps, il demande une vraie connaissance de soi-même. Une véritable, au fond, maîtrise de soi-même qui s'applique non seulement au corps, mais qui s'applique aussi aux réalités spirituelles. Ils recherchent les désirs spirituels pour eux-mêmes, préfèrent la consolation au consolateur, la sensation de bien-être dans la prière à l'exercice de la prière. Or, cette convoitise affective centre la personne sur elle-même, le signe, si Dieu ôte sa présence sensible, sans ôter sa présence spirituelle, qui n'a rien de perceptible, l'âme est tout entière désorientée. La gourmandise ne s'applique pas uniquement aux réalités matérielles, au plat, à la nourriture, à la boisson, elle s'applique aussi à la réalité spirituelle. Et j'aime cette phrase de Sainte Thérèse d'Avila qui disait à ses sœurs, « Qu'est-ce que vous aimez le plus ? Les cadeaux de Dieu ou le Dieu des cadeaux ?» Pourquoi est-ce qu'on croit en Dieu ? Pourquoi est-ce qu'on est disciple de Jésus ? Uniquement parce qu'il nous apporte, parce qu'il nous console, parce qu'il nous fait du bien ? Ou pour lui-même, parce que Dieu, il a besoin d'être aimé pour lui-même. Donc on voit bien que la gourmandise, au fond, d'une certaine manière, aliène notre liberté. Ce manque de tempérance, ce manque de maîtrise de soi, qui se répercute dans la vie, dans les prises de décision, d'une manière ou d'une autre, nous invite à une conversion intérieure. Est-ce que j'accueille la limite ? Est-ce que j'accueille, au fond, la mesure comme un chemin d'humanité, même si ça m'est difficile, mais est-ce que je l'accueille ? Est-ce que j'accueille, au fond, cette humanité qui m'est donnée, avec ce besoin et de boire et de manger, mais avec une tempérance, avec une mesure, avec une règle. On peut dire que, d'une manière ou d'une autre, le péché, c'est le refus de toute limite. Parce qu'en nous, de fait, il y a quelque chose d'illimité. On l'a vu tout à l'heure, dans notre intelligence et notre volonté, il y a quelque chose d'illimité. Mais le fait de donner au fini quelque chose qui appartient à l'infini, le fait de donner à la nourriture, à la boisson, quelque chose qui appartient à Dieu, eh bien, ne nous rend pas service, au contraire, nous rend triste. Et pour nous, c'est important de prendre conscience que la gourmandise, on verra plus tard la luxure, l'avarice, est fondée sur un désir démesuré. Il y a un manque de mesure, il y a un manque de maîtrise, il y a un manque de limite, un manque d'accueil de notre humanité. Mais en même temps, c'est aussi un objet de contemplation, alors que le péché originel est venu par la nourriture, le salut nous vient aussi par la nourriture. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi. Le premier miracle que Jésus a opéré, ce sont les noces de Cana, signe que Dieu ne méprise pas notre réalité humaine, notre réalité festive, notre besoin de, à la fois de bien-être et de, et de comment on peut dire, de plaisir, mais il vient remettre dans la finalité ce qui en nous a pu être désordonné. Alors que dans la nourriture habituelle que nous allons prendre d'ici quelques instants, la nourriture se transforme en nous, comme notre petit déjeuner s'est transformé dans nos cellules, notre muscle, nos différentes cellules, etc. Ça s'est transformé en nous. C'est ça, l'assimilation. Dans l'Eucharistie, c'est l'inverse. C'est nous qui nous transformons en lui. Nous devenons ce qu'il est. Nous devenons ce que nous mangeons. Je trouve ça très beau, justement, que Jésus ait institué ce sacrement de l'Eucharistie, précisément parce que à la fois ça fait appel à notre humanité, à toute notre humanité, à notre réalité terrestre, de devoir vivre par la nourriture et la boisson, mais en même temps ça nous remet dans la finalité, ça nous redonne une véritable orientation. Ça nous guérit aussi. Si on a pu se laisser aller aux excès de nourriture ou de boisson, toujours sous l'aspect du bien, parce qu'on recherche un bien, mais ça nous guérit, l'Eucharistie nous guérit, parce que ça nous remet dans la véritable finalité qu'est le Christ lui-même. Chacun d'entre nous, on est invité à découvrir dans l'aliment un don de Dieu. C'est pour ça qu'on fait le bénédicité au début du repas. On rend grâce à Dieu pour les aliments quotidiens, parce qu'on sait que beaucoup dans notre terre, eh bien, n'ont pas ces aliments. Mais en même temps, on peut rendre grâce à Dieu, non seulement pour chaque repas, mais aussi pour cette nourriture céleste qu'il nous donne dans l'Eucharistie. Ça demande une attitude de foi, ça demande une véritable confiance, parce que ça n'a rien d'évident que de découvrir dans le pain consacré le corps du Christ, dans le vin consacré le sang du Christ. Ça nous donne une véritable invitation, au fond, à une confiance dans la parole du Seigneur. Et pour nous aussi, dans notre humanité par rapport à la gourmandise, eh bien, que nous soyons assez attentifs pour appliquer ce que dit l'apôtre Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Au fond, l'évangile, je me rappelle comme ça d'un prêtre qui disait, l'évangile est un seul repas. Que ce soit des noces de Cana jusqu'à l'Eucharistie, Dieu nous sauve par le repas. Et le repas est une liturgie. Le repas, ça je vous invite aussi à penser à ça en famille, quelle est la manière dont vous vivez les repas en famille ? Je me souviens comme ça de notre fameux père Jean qui est allé en récollection dans une communauté près de Senlis, et puis le repas qui était servi, c'était un repas en self. Et lui de dire, je ne me souviens pas dans la Bible qu'il y ait une telle manière de manger. C'est intéressant, parce que le repas en self, bon, c'est compliqué de faire un bénédicité en self. Mais parce que justement, pour nous, le repas est une liturgie, est une communion, une expression aussi de l'amour qui nous unit. Le repas dominical, le repas familial, quelle est la manière dont nous avons de vivre nos repas? Nos repas de tous les jours, mais aussi les repas plus festifs, ça renvoie à la fête, ça renvoie à la célébration de telle ou telle personne dans le repas, ça renvoie à la communion. Puisque nous mangeons, dit saint Paul, un même pain, c'est pour former un même corps. Je trouve que par rapport au péché de gourmandise, il y a justement là quelque chose qui nous est signalé. De dire que la nourriture n'est plus liée au corps, au lien entre les personnes. Elle est liée à la satisfaction propre. Et on voit bien la personne qui est gourmande, elle est centrée sur son assiette. J'ai fait une retraite chez les frères de Timaduc. Peut-être certains d'entre vous connaissent l'abbaye de Timaduc en Bretagne, à côté de la forêt de Brocéliande. Et chez les frères de Timaduc, il y a une règle, c'est qu'à table, on ne demande rien. Il faut que le frère qui soit à côté s'en rende compte. Bien. Il semblerait que personne soit mort de faim encore, mais intéressant comme démarche. Parce que, justement, dans le repas, il y a cette forme de s'être centré sur soi-même, d'être et de ne plus voir, est-ce que l'autre a besoin de quelque chose? De l'eau, du pain, du sel, de lui repasser le plat? Et pour moi, en tout cas, ça a été une leçon que cette règle de vie, que s'appliquent les moines de Timaduc, de dire à table, on ne demande rien. Il faut que l'autre se rende compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché de gourmandise nous centre sur nous-mêmes. On est centré sur notre assiette. On est centré sur notre plaisir. On ne considère plus l'autre à notre côté et à la fois son besoin et ses demandes. Alors qu'un repas qui est vécu à la fois dans la tempérance et dans la joie, eh bien, prends compte en le voisin, celui qui est à mes côtés. Et je crois que dans l'éducation que vous donnez à vos enfants, comme c'est important de, et je pense que vous le faites, vous avez souci de ça, d'éduquer les enfants, la manière de se tenir à table, mais surtout plus la manière d'être attentif à l'autre à table. La manière de célébrer le repas. Comment est-ce que les repas se vivent dans vos familles? C'est compliqué. C'est la bataille. C'est ça. C'est la survie, c'est ça. Struggle for life, comme on dit. Ben justement, il y a une éducation, struggle for life, ben oui, ça fait partie de notre humanité, mais il y a une éducation. Parce que mine de rien, les repas sont très importants pour la communion et pour la famille. Je trouve que c'est des lieux de rencontre. C'est des lieux d'échange. Alors, avec les enfants, c'est certainement plus compliqué, mais justement, c'est leur faire prendre conscience que tous les repas ne se valent pas. Un repas dominical ne vaut pas un repas du lundi ou du mardi. Un repas en famille ne vaut pas un repas à la cantine. Parce que dans le repas, il y a quelque chose de ce que vous portez qui est transmis. Un repas, c'est bien plus qu'un repas. C'est un lieu de rencontre. Et c'est intéressant aussi que dans le christianisme, il n'y ait pas d'interdit alimentaire. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut manger à la table de tous, qu'une fraternité universelle est possible. Au tout début du christianisme, il y a été question de savoir est-ce qu'il faut respecter les interdits du judaïsme et les aliments impurs. Mais Jésus a fait sauter tout ce qui est pur et impur à la manière du judaïsme pour le renvoyer à l'intérieur. Ce n'est pas l'aliment qui vient de l'extérieur qui te rend impur, c'est toi-même de l'intérieur, tes pensées, ta manière de voir qui te rend impur. Et c'est vrai, le fait qu'il n'y ait pas d'interdit alimentaire dans le christianisme, eh bien, nous permet de manger à la table de tous. Nous permet une communion. Alors que dans l'Ancienne Alliance, on voit bien dans le judaïsme, l'interdit alimentaire est là pour, au contraire, séparer le juif du païen, distingué. On ne mesure pas à quel point le christianisme a façonné notre société. Justement par cette question du pur et de l'impur. Parce que le christianisme n'est pas une religion du livre, c'est une religion de la personne. Et de la communion des personnes, et non pas de l'application d'une loi. Jésus s'est élevé contre l'application d'une loi. Le Shabbat est fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat. Et on traitait Jésus lui-même de glouton et d'ivrogne. Il mange avec les pécheurs. Il mange lors du Shabbat. Il cueille les épis de blé, alors que c'est interdit. La question de la nourriture est une question très essentielle dans notre vie. Non seulement parce qu'elle se répète au moins 3 fois par jour, mais parce qu'elle dit quelque chose de notre civilisation et quelque chose de notre foi. Ça peut se dire de toutes les religions d'une manière ou d'une autre ont tenu en compte la question de la nourriture, parce que c'est la survie de la personne. Mais pour nous chrétiens, c'est important de voir le repas comme un lieu où la communion est au rendez-vous, parce qu'il fait écho à ce grand repas qu'est l'Eucharistie. Communion de Dieu avec l'homme. Alors ça nous demande de changer aussi de manière de voir, ça nous demande une transformation intérieure pour accepter une certaine limite, une certaine mesure. Et en même temps, ça nous ouvre les portes à une fraternité universelle. De ce point de vue-là, l'Église a une très grande responsabilité de lien. Elle n'en a pas l'exclusivité, elle en a la responsabilité. Et c'est clair que, par exemple, dans le dialogue interreligieux, qui est compliqué aujourd'hui, parce qu'on sent des crispations qui sont aussi dans l'Église, parce qu'on est dans un monde qui se transforme, on a un monde pluriculturel, tout ce que vous voulez, plurialimentaire, etc. Et les questions de nourriture, eh bien, ressortent d'autres questions. Mais c'est là, pour nous, chrétiens, que nous avons une responsabilité. L'Eucharistie nous engage, parce que Dieu lui-même s'y engage. Non seulement il s'y engage, mais il s'y donne tout entier. Dieu est autant Dieu sur l'autel que dans la gloire. Nous avons comme chrétiens une autre vision de la nourriture. C'est la seule religion, à ma connaissance, où la nourriture est un sacrement. Un sacrement, c'est-à-dire un signe visible de quelque chose d'invisible. C'est ça la définition de sacrement, signe visible d'une grâce invisible. Alors on va demander au Seigneur, nous qui, durant cette session, nous allons communier tous les jours, en tout cas pouvoir participer de l'Eucharistie, de reprendre conscience justement de la manière dont nous célébrons les repas dans nos familles, de la manière dont nous les vivons, comme un lieu de communion, un lieu de circulation de l'amour. Même si j'imagine avec les enfants, ça va être un petit peu peut-être plus compliqué de maintenir une certaine harmonie, un certain ordre. Mais une grande éducation peut être faite par le repas, d'attention à l'autre, de ce dont l'autre a besoin, de mesure, de maîtrise. Le repas dit beaucoup de nous-mêmes, et la manière de nous tenir à table dit beaucoup de nous-mêmes. De même, une personne qui n'aurait pas de maîtrise à table ou une recherche excessive tant dans la boisson que dans la nourriture, eh bien on peut se poser la question, est-ce que dans sa vie, il n'y a pas d'autres excès, d'autres manières d'envisager personnes et événements qui ne soient pas ajustés, parce que nous sommes une unité à mes corps. Donc on va demander au Seigneur, justement, qui vient nous donner son corps et son sang en nourriture, en boisson, de véritablement envisager le repas comme une liturgie, une fête, un lieu de communion. Si Jésus a mangé avec les païens, a été traité d'ivrogne et de glouton. On s'en rappelle dans l'Évangile. Mais c'est quelque part parce qu'il voulait introduire, là aussi, une autre manière de faire. Une autre manière d'envisager les repas. Alors on va demander au Seigneur cette grâce, les uns pour les autres, si on se sent peut-être plus attaqué sur cette question de la gourmandise, d'un défaut de maîtrise de soi-même dans l'alimentation ou la boisson. Si on sent qu'on a de la difficulté par rapport à ça, si on sent qu'on a la difficulté à avoir la juste mesure, bien qu'on puisse demander au Seigneur cette grâce, parce que si on arrive à s'ajuster en cette matière, eh bien dans d'autres matières aussi, comme par ricochet, eh bien il va y avoir un ajustement. De même, si on est excessif dans l'alimentation et la boisson, dans d'autres aspects de notre vie, nous risquons aussi d'être excessifs. Manière de prendre la décision, d'exercer l'autorité. C'est important que nous voyions notre existence comme une continuité. Notre vie non pas comme des compartiments, mais au contraire comme une unité. Non pas comme des tiroirs séparés les uns des autres, mais au contraire comme quelque chose qui nous renvoie à une unité de vie. Alors on va demander ça au Seigneur, on va demander au Seigneur aussi de faire de nos repas familiaux, de nos repas en tout cas durant la session, des lieux de communion, autant que faire se peut. On va demander au Seigneur cette grâce aussi de méditer davantage sur l'Eucharistie, ce grand repas auquel il nous appelle, où il se donne, parce que chaque repas est un lieu de don, un don de nous-mêmes.